Chapitre 14. Pistache revient en faveur. La famille Jujube est à table et déjeune. Naturellement, en cause du futur mariage, des emplettes à faire, du trousseau à acheter. Entre la bonne portant des lettres. « Les lettres que le concierge vient de monter, » dit-elle. « Oh, il y a une lettre de deuil, » fit Madame Jujube. « Qui donc est mort ?» demanda Athalie en prenant la lettre pendant que son père ouvrait sa correspondance. « Oh !» s'écria-t-elle, après avoir jeté les yeux sur la lettre de deuil. « Monsieur Pistache ? Hein ? Qui est mort ?» firent les deux époux. « Non, non, c'est lui qui envoie ça. » Et elle lut. « Monsieur Pistache a le chagrin de vous annoncer la perte cruellement douloureuse qu'il vient de faire dans la personne de Monsieur Engendré Romarin, son oncle, qu'il n'avait jamais vu. « Et il a tant de chagrin que cela ?» observa ironiquement Jujube. « Il a ajouté quelque chose à la main, » dit Italie. Et elle lut, il a, par la même occasion, le plaisir de vous annoncer que cet excellent oncle lui a légué une somme de 200 000 francs. Madame Jujube s'exclama, 200 000 francs! Jujube, qui à ce moment ouvrait une lettre, allait s'associer à l'exclamation bien naturelle de son épouse. Mais un coup d'œil jeté sur les premiers mots de la lettre lui arracha un cri d'un tout autre caractère. « Qu'est-ce donc ?» demandèrent les deux femmes inquiètes. « Ton futur, grièvement blessé en duel, » répondit-il d'une voix altérée. « C'est sa tante qui m'annonce ce grand malheur. »« Oh, toujours de nos chances, » gémit la mère. Athalie pâlit, fut prise d'un tremblement nerveux, puis éclata en sanglots. « Oh, cela devait lui arriver, » dit le père, en marchant avec agitation. « Un tapageur, un viveur, un cerveau brûlé. » Madame Jujube, elle, consolait sa fille. « Mais tu sais bien ce que c'est que les duels, » lui disait-elle. « Les journaux en rendent compte à chaque instant, ils n'ont jamais de suite grave. » Dans 15 jours, ce pauvre garçon sera guéri. Mais tu n'as donc pas entendu ce que j'ai lu, hurla Jujube. La lettre porte grièvement blessée. J'ai entendu, mon ami, mais sur le moment, une blessure paraît grave et... Oh, je vais le voir, dit Jujube. Ne sois pas longtemps, papa, supplia Athalie. Jujube sortit précipitamment sans lui répondre. « Ne te désole donc pas, » continua la mère, « je te dis que ce ne sera rien, tu verras. » Puis, au doute exprimé par les mouvements de tête de sa fille, elle ajouta, en femme positive qu'elle était, « D'ailleurs, mettons les choses au pire. » Supposons que le pauvre garçon meure de sa blessure. « Oh, maman, ne dis pas ça !» sanglota l'inconsolable Athalie. « Non, c'est une simple supposition. Eh bien, n'oublie pas que Pistache a hérité de 200 000 francs. Non, ne me parle plus de lui, je n'en veux pas. Pourtant, 200 000 francs, quand, comme toi, on n'a pas de dot. » Athalie trépigna de colère en répétant « Je n'en veux pas, je n'en veux pas !» Madame Jujube continua « D'autant plus qu'avec cette fortune, il n'aurait pas besoin de rester dans la pharmacie, et ton père alors, qui n'avait que cette objection. » Pour en finir, Athalie quitta brusquement sa mère et s'en alla pleurer dans sa chambre. Jujube ne tarda pas à rentrer, il était furieux. « Eh bien ?» lui demanda Madame Jujube avec empressement. Puis, voyant son air irrité, « Mais qu'as-tu donc » ajouta-t-elle. « Tu as déjà été raconté à tout le monde que ta fille faisait un riche mariage ?»« Moi, mais... Ben, je viens de recevoir, rencontrer monsieur et madame Blavin qui m'ont félicité. Ben, je leur ai confié des amis, confié. Et ils l'ont répété, cela se sait partout. Et ton prétendu gendre est très gravement blessé. On ne peut pas le voir, défense absolue des médecins. Oh mon Dieu, gémit madame Jujube, s'il allait mourir. C'est à craindre et on se moquera encore de nous, comme pour les autres gendres qui nous ont ratés. Car chaque fois, toi et ta fille, c'était la même chose. Vous ne pouvez pas taire votre langue. Mais mon ami, cette fois, tu m'as dit toi-même avoir annoncé le prochain mariage d'Athalie. Ah, ce méchant savant, ce cuistre, ce que Capus a dit. Il faut des notes. Oui, je l'ai rencontré, je me suis offert le plaisir de lui annoncer. Tout le monde à ma place en aurait fait autant. Mais toi, quelle raison avais-tu? Mais c'est Athalie qui en a parlé la première. Athalie aussi, oui. Oh, vous êtes toutes les mêmes. Et si ton futur gendre meurt, comme c'est à craindre, nous voilà encore avec notre fille sur les bras. Non, mon ami, si tu le veux bien. Et elle rappela l'amour de Pistache pour Athalie et l'héritage qui lui permettrait de quitter la pharmacie. Jujube ne répondit rien. C'était déjà un pas de fait, et quand sa femme ajouta qu'Athalie ne voulait pas qu'on lui parlât de ce jeune homme, le petit tyran reparut. Déclara qu'il ne mettait pas la résistance d'une fille aux volontés de son père, que sa volonté il l'imposerait, si besoin était. En tout cas, ajouta-t-il, envoie nos cartes à ce jeune homme avec un mot de sympathie. Madame Jujube comprit que sa cause était gagnée et que, avec l'un ou avec l'autre, on avait enfin le placement d'Athalie. Et aussitôt, suivant le désir de Jujube, elle prit les trois cartes de visite, écrivit quelques mots affectueux sur chacune d'elles, puis elle envoyait immédiatement Galfâtre, le concierge, les porter à leur adresse. Pistache fut au comble de l'émotion en voyant cet empressement de la famille Jujube, et particulièrement la participation du maître de la maison à cette manifestation sympathique. Remerciez de ma part, je vous prie, dit-il au concierge, monsieur et madame Jujubesse. Dites-leur que j'étais très sensible à leur preuve d'amitié. Bien, monsieur, je n'y manquerai pas. Puis Galfâtre ajouta, monsieur est sans doute invité à la noce. À la noce, quelle noce? Bien, celle de mademoiselle Jujubesse. Comment de mademoiselle? Et le pharmacien, abasourdi, n'eut pas la force d'achever. Mais pensant qu'il s'agissait de son propre mariage, il se mit à rire. Ah, ça se sait donc déjà? Demanda-t-il. Mais toute la maison le sait, répondit Galfâtre. Ah, fit notre pharmacien radieux, ah, vous me faites bien plaisir. Tenez, voilà 20 francs pour cette bonne nouvelle. Oh, monsieur est trop bon, je croyais que monsieur savait ça. Mais je savais que la demoiselle et sa maman voulaient bien, mais c'est monsieur Jujubesse qui ne voulait pas. Ma foi, répondit Galfrâtre, il avait bien raison, donner sa fille unique à un viveur, à un coureur. Ah, mais dites donc, vous, c'est pour me remercier de mes 20 francs que vous me dites ça? Ah, oui, c'est vrai, monsieur, je ne me rappelais plus que vous étiez l'ami de ce monsieur. Ce monsieur, quel monsieur? Eh bien, monsieur Bagali. Pistache resta anéanti. Bengali, balbutiait-il. Bengali? Ben, vous ne savez pas qu'il doit épouser cette demoiselle? Ces questions restant sans réponse, Galfâtre se retira sans que sa sortie fût remarquée par Pistache, restait les yeux fixes et l'air ahuri. Ah, se dit le pauvre amoureux, je comprends maintenant pourquoi on ne me recevait pas quand il était là. Galfâtre venait de rentrer à sa loge quand Madame Jujube, qui à ce moment-là venait du dehors, lui dit « Comment, vous n'avez pas encore porté les cartes ?»« Oh, pardon, madame, j'en reviens. Vous avez trouvé la personne ?»« Ben, c'est au monsieur même que j'ai remis les cartes, même que ce pauvre jeune homme est dans un chagrin. »« De la mort d'un oncle qu'il n'a jamais vu et qui lui laisse 200 000 francs ?» Ah, 200 000 francs, s'écria Galfâtre, c'est donc ça que dans la joie, il m'a donné 20 francs. Dans sa joie, fit Madame Jujube surprise, mais vous venez de me dire qu'il était dans un grand chagrin. Oh, non, le chagrin est venu après les 20 francs, quand je lui ai annoncé le mariage de mademoiselle. Madame Jujube bondit, vous lui avez... La colère l'empêcha d'achever. Dame, étant l'ami du marié, je croyais qu'il était invité à la noce. Et la brave dame, exaspérée, mais comment connaissez-vous vos affaires de famille? Qui vous a parlé de ce mariage? Madame, c'est mademoiselle elle-même. Ah, mon Dieu, murmura Madame Jujube, allez compter ça jusqu'au concierge. Il n'y a rien dans tous ces ragots que des pourparlers qui n'aboutiront même pas. Non, madame, moi, je... Ah, voilà, c'est pas un mot de cela à personne. Et tout d'abord, vous allez me courir, me porter une lettre à monsieur Pistache, je vais le faire. Venez la chercher dans 10 minutes. Et elle monta chez elle en toute hâte. Une demi-heure après, Pistache recevait une lettre ainsi conçue. « Il n'y a rien de vrai dans ce que vous a dit mon imbécile de concierge. Il vous a rapporté des potins de voisinage établis sur les visites que nous fait M. Bengali, comme nous en ont fait tous nos amis. Et d'ailleurs, le pauvre jeune homme est peut-être mort à cette heure d'une blessure qu'il a reçue hier en duel. Venez me voir, nous causerons. » Chapitre 15. La garde malade. Depuis 6 jours, Bengali était en proie à une fièvre ardente et plongé dans un sommeil incessant et agité. Le médecin, on le sait, avait dès le premier examen de la blessure déclaré sans hésitation qu'elle n'aurait pas de suite fatale, à moins de complications imprévues. Il avait donc fait toutes les recommandations de nature à prévenir ces accidents, notamment l'interdiction des visites et de tout ce qui pouvait troubler le repos du malade. « Vous tenez bien compte de mes prescriptions, » dit-il au domestique. « Vous ne recevrez personne autre que la tante de votre maître. » À la mine embarrassée du domestique, le docteur lui demanda « Vous ne comprenez pas, c'est pourtant bien clair. » « Si, si, monsieur le docteur, je comprends bien, mais c'est que... »«
C'est que quoi ?»«
Ben, il y a cette demoiselle qui était dans la voiture quand on a rapporté monsieur. »«
Elle est lui demander de ses nouvelles, vous lui en avez donné ?»«
Bon, c'est bien, je n'interdis pas les demandes de nouvelles, ce ne sont pas des visites, cela. » Qu'on parle bas et qu'on n'entre pas dans la chambre du malade, voilà tout ce que j'exige. Bien, monsieur, mais cette demoiselle m'a tant prié que je l'ai laissé regarder monsieur. Oh, ce qu'elle a pleuré en le voyant, ça me fendait le cœur à ce moment-là. Monsieur, tout en dormant, demandait à boire, alors elle s'est assise au chevet du lit. J'ai soulevé, monsieur, elle l'a fait boire. Après, elle a
tant pleuré pour que je la laisse soigner, monsieur. Oh, que je n'ai pas eu le courage. Je ne m'étais pas trompé, pensa le docteur. Il y a de l'amour là-dessous. Bon, vous avez bien fait, répondit le domestique. Quand cette personne reviendra, vous la laisserez entrer. Bien, monsieur. Oh, elle est revenue, elle revient tous les soirs. Mais monsieur, qui dort toujours en se remuant beaucoup, ne s'est même pas aperçu qu'il était là. Il boit en dormant. Cette pauvre demoiselle passe la moitié des nuits, des fois plus. Elle lui essuie la figure, qui est mouillée par la fièvre. Elle ne perd pas de vue. Faudra-t-il que je la laisse revenir ? Oui, répondit le médecin, certain que nul autre garde ne soignerait son malade avec autant de sollicitude. Georgette continua donc à venir soigner son cher blessé. Un soir, elle resta tout interdite en voyant entrer le médecin. Il lui sourit, lui imposa silence du geste et lui dit à voix basse « Je savais vos visites, vos soins, et je les ai approuvés. Ça vaut mieux, oh, ça va bien mieux. » Puis, tâtant le pouls du malade, « Oh, beaucoup mieux » ajouta-t-il. « Entrez, madame. Monsieur le docteur est là !» dit à mi-voix la domestique en introduisant mademoiselle Pied-Vache. La vieille demoiselle eut un geste de surprise à la vue de Georgette, et elle jeta au médecin un regard interrogateur. « C'est une garde malade que j'ai placée près de lui, » dit le médecin, « pour éviter toute explication. » Oh, elle est bien jeune et bien jolie pour faire ce métier-là, se dit la vieille demoiselle, mais préoccupée de la santé de son neveu. Eh bien, demanda-t-elle. Oh, la fièvre s'en va, répondit le docteur, je suis très content. Mais ne restons pas ici, notre présence est inutile et il a encore besoin du repos le plus complet. Et vous me répondez, ah, de ces guérisons, absolument. Elle sera longue, mais elle est certainement. Elle est certaine, allons-nous-en. Et Georgette resta seule avec celui qu'elle aimait, écoutant sa respiration devenue plus régulière et plus douce, observant ses mouvements moins fréquents et moins brusques. Le médecin ne l'avait pas trompé. Une amélioration sensible s'était produite depuis la veille, la jeunesse triomphait du mal, et cette pensée « il vivra » lui arrachait un sourire. À quelques mots confus qu'elle perçut, « il parle », se disait-elle, « il a soif peut-être ». Et approchant son oreille des lèvres du malade, elle écouta, puis eut un mouvement de joie. « Mon nom, dit-elle, il rêve de moi. » Le voyant promener sa langue sur ses lèvres desséchées, elle pensa qu'il avait soif. Elle entr'ouvrit la porte de la pièce voisine pour dire au domestique de venir soulever son maître. Le domestique dormait profondément dans un fauteuil. La jeune fille alors prit le tasse contenant le breuvage ordonné par le médecin, souleva la tête de son bien-aimé et présenta la tasse à sa bouche entrouverte. Il but d'abord avidement avec l'inconscience que donne le demi-sommeil, et puis ouvrit les yeux, regarda Georgette, la regarda longtemps. Oh! « Je reprends mon rêve interrompu, » murmura-t-il avec une expression heureuse. Georgette lui reposa la tête sur son oreiller et voulut s'enfuir. « Ah, mais ce n'est pas un rêve !» s'écria-t-il. « Oh, Georgette, Ne me quittez pas !»
Elle s'arrêta au seuil de la porte et se retourna vers lui. Il se redressa, tendit ses bras vers la jeune fille et d'une voix tremblante d'émotion.
« Vous ?» fit-il. « Vous près de moi ?»«
Chut !» fit-elle, « ne parlez pas. Il vous faut le repos le plus rigoureux. »«
Oh, ne vous en allez pas, je vous en supplie. Votre présence près de moi me guérira plus vite que les remèdes du médecin. »
Georgette revint vers lui. « Je veux bien rester, dit-elle, mais sur votre promesse de garder le silence. »«
Oui, Georgette, oui, je me tairai. »
La jeune fille reprit sa place dans le fauteuil placé au chevet du lit.
Bengali voulut parler. « Ah, fit-elle, vous m'avez promis. »
« Deux mots seulement, Georgette, je vous en supplie. »«
Bien bas, alors, dit-elle. »
« À votre oreille, voulez-vous ?» Et il avança ses bras pour l'attirer à lui. Elle se recula vivement.
« Chut, chut !» fit-elle, un doigt posé sur sa bouche souriante. « Reposez votre tête sur l'oreiller et parlez-moi d'ici. »
Bengali obéit. « Est-ce la première fois que vous venez ici, Georgette ?» demanda-t-il.
« Je suis venu tous les jours. »«
Ah !» fit-il joyeux. « Et vous viendrez encore ?»«
Si cela doit hâter votre guérison. »«
Oh, oui, oui, oh, je me sens déjà tout autre. »«
Voyons, ne vous animez pas. Soyez bien tranquille. Parlez peu et doucement, sinon je m'en vais. »«
Non, non, restez, je vous obéirai. »
Puis... après un silence, «
Oh, on a fait une comédie là-dessus, je l'ai vu jouer, l'amour médecin. »«
Oh, Georgette, il me semble que je serais si heureux de tenir votre main dans la mienne. Voulez-vous, oh, ça me fera plus de bien que la tisane. »
Elle lui donna sa main.
« À la condition, dit-elle, que vous allez vous endormir comme cela. »
« Oui, Georgette, oui, je vais dormir. » Il ferma les yeux et bientôt sa respiration courte, précipitée, indiqua qu'un sommeil fiévreux avait vaincu la volonté du jeune homme de laisser ses yeux fixés sur ceux de son adoré. Chapitre 16. Déception de la famille Jujube. Les jours, les semaines s'écoulaient, rien ne faisait prévoir à l'affligée Athalie et à ses parents l'époque du rétablissement complet du futur époux, par conséquent la date de mariage convenue. Quand Jujube se présentait chez le blessé, il n'était jamais reçu, et Mademoiselle Pied-de-Vache, toute à son inquiétude pour son neveu qu'elle adorait, ne pouvait que répéter à la famille impatiente « Ah non, c'est l'ordre formel du médecin. Le pauvre enfant ne peut pas recevoir de visite. Moi-même, quand je vais le voir, je ne fais qu'une apparition, mais le docteur m'écrit tous les jours quelques mots. La guérison est certaine, mais ça sera long. Il faut attendre. » On attendait depuis un mois quand Mademoiselle Pied-de-Vache arriva chez les Jujubes, l'air fort satisfait.
« Enfin, dit-elle, le cher enfant peut recevoir des visites. Il se lève et entre en convalescence. »
Grande joie d'Athalie à cette bonne nouvelle.
« Qu'est-ce que peut durer la convalescence, un mois ?» demanda-t-elle.
« Oh, pas plus, je pense, » répondit la tante.
« J'aurai grand plaisir à le voir, ce brave garçon, » dit Jujube.
« Je viens vous prendre pour vous mener chez lui, » répondit la vieille demoiselle. « Ma voiture est en bas, êtes-vous prêt ?»
Jujube, qui était toujours prêt à sortir, dit que son chapeau à mettre. « Je suis à vos ordres, » dit-il.
« Mille bonnes choses de notre part, papa, » dit Athalie. « Dis-lui que nous sommes bientôt bien heureuses de son rétablissement. » Bengali, occupé à dévorer deux côtelettes, fut désagréablement surpris en voyant sa tante accompagnée du futur beau-père qu'elle voulait lui colloquer. « Bravo !» s'écria celui-ci. « Je vous trouve en bonne disposition, mon gaillard !»« Bengali, je mâchonne, je suce du jus de côtelette. Mais vous avalez la viande avec, les os sont décharnés. Ah, nous avons été tous bien heureux d'apprendre votre entrée en convalescence. Votre pauvre Athalie en pleure et de joie. » « Chère demoiselle, répondit Bengali sans enthousiasme, dites-lui que j'ai été bien sensible. Bon, je vais même lui annoncer que vous viendrez lui dire cela de bonne vive voix dans une huitaine de jours, répondit Jujube. Oh, certainement, ajouta mademoiselle Pied de Vache, dans 8 jours. « 8 jours, dit Bengali avec un pâle sourire, comme vous y allez, ma tante. Elle a raison, et nous causerons du mariage. J'espère que nous pourrons le fixer à 1 mois. » Bengali se récria d'une voix languissante. « Oh, 1 mois, fou, faible comme je le suis. » Aujourd'hui, oui, mais dans 1 mois. Certainement, ajouta la tante, 1 mois de convalescence, à ton âge, tu verras. Oh, j'en doute, ma tante. Ainsi, tenez, le peu que j'ai causé, eh bien, oh, je me suis fatigué. Je vais me remettre au lit. Il a raison, dit mademoiselle Pied-de-Vache, il faut le laisser se reposer. Voulez-vous que je vous envoie Athalie avec sa mère? Demanda Jujube. Oh non, 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 ce ne serait pas convenable. Une demoiselle chez un garçon malade. Bah, chez son futur. Oui, sans doute, mais quand je serai tout à fait bien, nous arrangeons cela. Oh, non, je vous demande pardon, je vais me recoucher. Les deux visiteurs se retirèrent et Jujube se disait ben, « Je trouve qu'il est guère pressé de voir ma fille. » Mais dès qu'ils furent partis, Bengali demanda le fromage à la crème et les fruits préparés pour le dessert de son repas interrompu. « Eh bien !» s'écrièrent Athalie et sa mère à l'arrivée de Jujube dont la figure était soucieuse. « eh bien, je l'ai trouvé mangeant 2 côtelettes. »« Ah !» s'exclamèrent joyeusement les deux femmes. « Oui, ah, tant que vous voudrez, mais pour moi, le mariage n'est pas fait. »« Comment ?» dit la pauvre Athalie, déconcertée. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ah, il y a... » Il n'y a rien, enfin, que des impressions, mais qui sont mauvaises. Et Jujube raconta son arrivée au moment où Bengali était attablé et paraissait manger avec appétit. Son air contraint en le voyant, la froideur de son accueil, sa fatigue subite, son refus de recevoir la visite de sa future, etc., etc. Athalie trouva, pour le justifier, les bonnes raisons fournies par les gens à illusion, toujours disposés à croire ce qu'ils désirent. Sa mère, femme à illusion, elle aussi, exprima un avis semblable. « Tant mieux si je me suis trompé, dit le chef de la famille, mais, règle générale, je ne me trompe jamais. »« Mais tu verras, papa, que tu te trompes cette fois, dit Athalie. » sans conviction. Bon, bon, je veux bien, nous verrons, ricana-t-il avec ironie. 4 jours après cette scène, il recevait de la tante Pied de Vache une lettre dont les premiers mots lui firent pousser une exclamation.
Il appela à haute voix les deux femmes. « Voilà du nouveau, venez vite !» Elles accoururent à son appel, et leur regard l'avait avidement questionné avant que leur bouche eût prononcé un mot. « Il est parti pour Nice, » dit-il. Et il jouit amèrement de la stupeur causée par cette nouvelle. « Mais parti, comment, pourquoi ?» demanda Athalie, accablée. « Ben, son médecin, paraît-il, l'envoie là-bas pour achever sa guérison. »« Eh bien, papa, si c'est le médecin qui l'a ordonné... » « Sans doute, ajouta la mère, si le médecin jugeait nécessaire. »« Nécessaire aussi, répondit Jujube, de partir sans nous faire une visite, sans nous exprimer par une lettre son désir de nous voir, sans même nous informer personnellement de son départ, puisque c'est sa tante qui nous l'apprend. » Athalie, cette fois, ne répondit que par des larmes. « Un pareil manque d'égard, dit Madame Jujube, et sans excuse. »« Sans excuse, appuya Jujube. » Bengali, cependant, en avait une excellente pour ne pas annoncer son départ. Il n'était pas parti, il ne devait même pas partir. Il avait exprimé le désir d'aller achever sa convalescence à Nice, à son médecin, mais celui-ci avait fort approuvé cette excellente idée. Le lendemain, le prétendu voyageur informait sa tante de ce qu'il appelait l'ordre du docteur. La brave femme pleura fort, mais enfin, cette séparation était nécessaire. Elle se résigna, donna quelques billets de banque à celui qu'elle appelait son cher enfant, retourna à Saint-Mandé et Bengali aussitôt de faire taire, faire ses malles. D'envoyer chercher une voiture et d'aller s'installer dans un petit appartement d'un quartier éloigné, appartement qu'il fit meubler. Le résultat des visites de Georgette avait été ce qu'on pouvait prévoir, et, chose moins facile à supposer, la possession, loin de refroidir les sentiments de l'heureux amant, n'avait fait qu'accroître son amour pour l'adorable fille qui s'était donnée à lui. C'était pour la voir tous les jours, sans gêne, sans contrainte, qu'il avait imaginé le besoin d'aller se rétablir à Nice. Il avait d'ailleurs tout prévu. Un de ses amis, installé dans cette ville pour plusieurs mois, et avec qui il s'était entendu, lui avait indiqué son hôtel. Bengali en avait donné le nom et l'adresse à sa tante, comme devant être le domicile où elle lui écrirait. L'ami lui renverrait les lettres, Bengali répondrait, enverrait ses réponses à l'obligeant intermédiaire qui n'aurait plus qu'à les jeter à la poste. Et il fut fait comme il avait été convenu. « Oh, tu verras, papa, » dit Athalie à son père, « oh, tu verras que M. Bengali... » Jujube l'interrompit. Partir sans nous en aviser, sans adieu, sans lettre explicative. Je t'assure, papa, qu'il a eu pour cela une cause majeure. Je suis sûr que dès son arrivée à Nice, il t'écrira. Ah, il ne lui manquerait plus que de ne pas nous écrire, répondit le père. Athalie a raison, mon ami, dit Madame Jujube. Il nous écrira, et tu verras qu'il lui est arrivé je ne sais quel empêchement. L'artiste, dont la vanité se refusait à croire qu'il en pût être autrement, ne répliqua rien et se borna à dire « Ah, avec tout cela, pour combien de temps est-il à Nice ? 2 mois, 4 mois, 6 mois peut-être ?» Athalie se récria, « Oh, papa, non, 15 jours, 3 semaines au plus. » « Enfin, conclut Jujube, nous parlons pour ne rien dire, attendons sa lettre. » Le lendemain, pas de lettre. Les deux dames firent observer que Bengali avait eu au plus le temps d'arriver, qu'à peine entré en convalescence, la fatigue du voyage avait dû l'obliger à un repos bien naturel. « Parfait, attendons à demain, » répondit ironiquement le père incrédule. 2 jours, 3 jours, 8 jours s'écoulèrent, et toujours pas de lettres. La tante Pied-de-Vache était allée passer un mois en Auvergne chez des amis. Impossible d'aller lui demander une explication. Écrire à Nice au prétendu convalescent, on ignorait son adresse et l'infortunée Athalie ne cessait pas d'inonder de ses larmes son piano, que malgré sa douleur, elle était obligée de travailler pour obéir aux injonctions paternelles. Jujube, convaincu que c'était encore un mariage raté, résolu de prendre l'initiative d'un affront à son singulier futur gendre, pour que celui-ci ne le lui fît pas, il se décida à donner sa fille à Pistache. Si ce jeune homme consentait à abandonner la pharmacie, il était riche, adorait Athalie, la condition serait donc acceptée sans difficulté. La réception d'une lettre montée par le concierge et timbrée de Nice vint interrompre le cours de ses réflexions. La réception d'une lettre montée par le concierge et timbrée de Nice vint interrompre le cours de ses réflexions. « Une lettre de Nice » cria-t-il. Les deux femmes accoururent. « Tu vois bien, papa, » dit Athalie, suffoquée par l'émotion. Et comme il éprouvait quelques difficultés à défaire l'enveloppe, « Oh, dépêche-toi, papa » ajouta-t-elle. « Tu vas voir qu'il se justifie, » dit Madame Jujube. Enfin, la lettre fut dégagée de sa prison ouverte et Jujube en donna lecture à la grande impatience d'Athalie qui attendait toujours ce qui ne venait jamais. Dans cette lettre, Bengali expliquait que le départ d'un ami pour Monaco, le jour même où le médecin avait ordonné Nice comme lieu de convalescence, l'avait obligé à partir immédiatement, la société d'un compagnon de voyage pouvant lui être d'un grand secours. « Ah, oh, je te le disais bien, papa. Et après, qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y avait une relation du voyage, la mention des arrêts dans les principales villes du trajet, arrêts nécessités par le besoin de repos, la description de Lyon, de Marseille, de sa canebière, de son port, etc., etc. Puis la description de Nice, où des orangers poussent en pleine terre, des renseignements sur Monaco, dont on aperçoit les remparts et où le chemin de fer conduit en une demi-heure. Enfin, la lettre se termina par les saluts d'usage, suivis de 1000 choses à ces dames. Cette lecture finie, Jujube regarda Athalie, qui était terrifiée. « Voilà, » dit-il amèrement, « 1000 choses à ces dames. Ah, drôle, polisson. Il attend 8 jours pour lui dire cela. 1000 choses à ces dames. » « Mais papa, » risqua timidement et sans conviction la pauvre fille, « il ne peut pas nous dire autre chose dans une première lettre. Écris-lui, il répondra, et cette fois... » « Lui écrit où ? Il ne donne même pas l'adresse de son hôtel. »« Il l'a oublié, il l'enverra dans sa prochaine lettre. » Un mois s'écoula, pendant lequel on reçut 4 lettres remplies de choses indifférentes,
sans la moindre allusion au mariage convenu, et tout se terminant constamment par la formule « mille choses à ces dames ».
Jujube n'hésita plus. Pistache serait son gendre. Il était seul. Au moment où il prenait cette résolution, un rythme l'ayant retenu dans sa chambre, et les deux femmes étaient au conservatoire où Athalie prenait des leçons d'harmonie. La bonne annonça Pistache. Jujube se leva, et de la porte entr'ouverte, les mains tendues, il cria « Entrez donc, cher monsieur !» Pistache, qui n'avait pas habitué à cet accueil chaleureux, en était tout confus.
« Vous voyez un pauvre malade !» continua l'artiste.
« Oh, vraiment, monsieur Jujubes !» fit le pharmacien avec sollicitude. « Oh, si j'avais su cela, je serais venu prendre de vos nouvelles. Oh, que je regrette donc !»«
Oh non, vous êtes bien aimable, ce n'est rien, un rhume !»
Le pharmacien, que ce mot plaçait sur son terrain, lui donna force détails sur les rhumes, leurs moyens de guérison, offrit tous les sirops et toutes les pâtes efficaces en pareil cas. Jujube le remercia avec effusion, ajouta que son rhume était à peu près passé et qu'il ne gardait la chambre que comme dernière précaution.
« Ne parlons plus de moi, dit-il. Quoi de nouveau ?»«
Pas grand-chose. » Une idée vint à Jujube.
« Et votre ami Bengali, avez-vous de ses nouvelles » demanda-t-il.
Ah, de ses nouvelles, est-ce qu'il a été malade?
Comment? Vous ne savez pas qu'il a été gravement blessé en duel?
Non, je ne savais pas ça.
Il a été 2 mois au lit et on l'a envoyé à Nice pour achever de se rétablir.
Oh, mais alors il est tout à fait rétabli. Je l'ai vu il y a 3 semaines.
Où cela?
À Paris, un soir.
À Paris. Vous êtes sûr que c'était lui?
Oh, parfaitement sûr. Nous nous sommes trouvés presque nez à nez.
Vous lui avez parlé?
Non, il avait une demoiselle à son bras, et comme en me voyant, il a vivement tourné la tête, j'ai pensé qu'il voulait m'éviter. Alors, vous comprenez, par discrétion.
Oui, parfaitement.
Ça m'a contrarié parce que je lui aurais annoncé mon héritage. Ça lui aurait fait plaisir.
Ici, Pistache trouva le joint pour faire connaître ses intentions.
Et puis, dit-il, je l'aurais consulté sur mes idées de mariage.
Jujube, tout à la réflexion qui venait de lui être faite, ne répondit pas. Pistache alors continua.
« Oui, dès que mon deuil sera fini, et appuyant, je m'occuperai de me marier. » Et il répéta, « Je veux absolument me marier. »
Et Jujube, toujours la tête ailleurs, ne répondait pas encore. Pistache l'interpella,
« N'est-ce pas, monsieur Jujubes, que j'ai raison ?»
Mais raison sur quoi?
Sur mon idée de me marier.
Ah, vous songez à vous marier?
Oui, après mon deuil, le deuil d'un oncle, ce n'est pas bien long, 3 mois au plus.
Vous avez raison, mon jeune ami.
Son jeune ami, pensa notre amoureux, que cette appellation combla d'espoir, il continua. Oh, il y a une demoiselle que j'adore et qui m'aime aussi.
Bravo!
Et si vous voulez, monsieur Jujubes,
moi?
Oui, monsieur Jujubes, ça dépend de vous.
Et il allait lâcher le grand mot quand mesdames Jujubes entrèrent.
Il courut au devant d'elle. Ah, madame, mademoiselle, balbutia-t-il, suffoqué d'émotion. Oh, si vous saviez combien je... Athalie le salua de la tête et sortit vivement, laissant le pauvre garçon son sourire figé sur sa bouche béante. Il allait demander une explication, mais la mère, ignorant la résolution prise par son mari, celui-ci pensa que reprendre en ce moment la conversation interrompue serait provoquer chez Madame Jujube un étonnement et un embarras de nature à dérouder Pistache. Jujube prétexta sa palette à préparer pour la pose d'un modèle qui l'attendait, engagea vivement le jeune homme à revenir le plus tôt possible, et le nouveau futur gendre se retira, sans s'expliquer l'accueil d'Athalie, mais transporté de joie par les dispositions du père. « J'ai du nouveau à t'apprendre, » dit aussitôt celui-ci à sa femme, « et surtout à apprendre à Nathalie, appelle-la !» Athalie, qui avait guetté le départ de son amoureux, rentra à ce moment. « J'annonçais à ta mère qu'il y a du nouveau, » reprit Jujube, « et j'allais t'appeler pour entendre cette nouvelle intéressante. » À l'air ironique de son père, la pauvre fille devina que la nouvelle était mauvaise pour elle. Le père continua sur le même ton sarcastique. « Il est retombé, ce cher malade. Oh, une rechute qui l'a forcé à reprendre le lit dont l'état est tellement grave qu'il ne peut ni nous écrire ni charger quelqu'un de nous informer de sa rechute. Mais qu'y a-t-il donc, papa ?» demanda la pauvre Athalie avec inquiétude. « Mais il y a que ton soi-disant adorateur se porte comme le pont neuf et qu'il a été vu à Paris il y a 3 semaines avec une belle jeune fille à son bras. Hein » « Hein ?» fit Madame Jujube. Athalie était restée anéantie. « Eh bien, fit Jujube, es-tu convaincue ?» Elle balbutia par les tremblantes. « Mais comment sais-tu cela, papa ?»« Par celui que tu dédaignes, qui sort d'ici. Il l'a vu, de ses yeux vus. » « Il a pu se tromper. » « Non, je lui ai posé la question. » Et Jujube répéta les paroles de Pistache. « C'est un mensonge qu'il t'a fait, papa. » « Dans quel but ?» Pour évincer son rival. Mais il ignore cette rivalité. Je ne lui en ai pas soufflé mot. Et s'il la connaît, qui la lui aurait apprise ? Ton père a raison, ma fille, dit Madame Jujube. Lui continue. Si, comme tu le croyais, ton adoré était retombé malade, sa tante le saurait, nous en aurait informé. Elle est en Auvergne. Mais elle en serait revenue en toute hâte, nous aurait mis au courant, aurait avisé au moyen de faire revenir le malade. Au besoin, serait allé à Nice, enfin, nous saurions quelque chose. Et tu te figures que nous allons attendre ce monsieur qui se fiche de toi, de nous, qui ne t'épousera jamais, quand nous avons un brave garçon riche prêt à te conduire à la mairie. Oh, jamais! Fit énergiquement Athalie. « Hein ?» fit le père à qui, dans son intérieur, nul n'avait jamais résisté. Elle répéta, « Oh non, jamais je n'épouserai ce monsieur, jamais, jamais, jamais » « Qu'est-ce que c'est que ce ton-là » s'écria le père en s'avançant la main levée. Athalie ne recula pas. « Bats-moi, » dit-elle, « tue-moi si tu le veux, je ne l'épouserai pas. » Il n'y a, telle que la timidité subitement résolue, pour imposer à ceux devant qui elle s'était jusqu'alors inclinée, et Jujube resta donc muet d'étonnement à cette résistance énergique qu'il rencontrait pour la première fois. « C'est ma fille, » dit-il, les lèvres blêmes et agitées par la colère, C'est ma fille qui me parle ainsi.
Papa, je ne te manque pas de respect. Je t'ai toujours obéi et je t'obéirai toujours. Mais pour cela, non, 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 non.
Mais j'ai donné ma parole à ce jeune homme, dit-il, espérant par ce mensonge obtenir la soumission d'Athalie.
Mais je ne lui ai pas donné la mienne, répondit-elle, je ne l'aime pas.
Malheureuse, ta mère non plus ne m'aimait pas quand je l'ai épousée, maintenant, c'est du délire.
Oh, du délire, murmura Madame Jujube avec un léger mouvement de tête.
Qu'est-ce que tu dis ?
Oh, je dis oui, du délire.
Tu entends, ma fille, je ne le fais pas lire à ta mère.
Comme sa mère ne l'avait pas dit, elle approuva. Oh, en tout cas, mon ami, dit-elle, nous ne pouvons pas rompre des projets bien arrêtés sans prévenir Mademoiselle Pied-de-Vache.
Et avant de la prévenir, ajouta Athalie, avoir la preuve que c'est bien lui qui a été vu à Paris.
À ce moment, une visite vint couper court à la discussion et jeter dans la vaniteuse famille une joie de nature à lui faire oublier toute autre chose. Une riche dame, celle qui donnait à Athalie les fleurs, les plumes et les rubans qui avaient cessé de lui plaire, une de ces connaissances dont on disait « Nous n'avons que des amis comme cela », cette dame venait d'annoncer qu'elle partait en voyage pour plusieurs mois et elle mettait sa maison de campagne à la disposition des Jujubes et même à leurs ordres ses domestiques qu'elle n'emmenait pas, ajoutant qu'ils pourraient s'y installer dès le surlendemain et y rester jusqu'à son retour, c'est-à-dire la plus grande partie de la belle saison. La famille radieuse la remercia avec effusion. On l'embrassa, on lui fit tous les souhaits possibles de revoyage, et la dame partit, il ne fut plus question que de la prise immédiate de possession de la splendide demeure, des amis et connaissances qu'on y inviterait, du riche mobilier au milieu duquel on se pavanerait, et on s'occupa immédiatement des invitations à faire.